Bien, merci à tous d'être venus dès ce matin pour que nous parlions aujourd'hui avec Jay Wells, qui se trouve ici, l'auteur des aventures de Sabina Ken, Marie Kagelman, qui vient de faire une entrée fracassante dans le domaine de la vitlite avec le premier volume des aventures de Maeve. C'est bien ça, Regan. Voilà. Cassandra O'Donnell qui nous donne les aventures de Rebecca Keane. Et Jean-Luc Marcastel qui a donné la belle série de Louis Le Gallou et qui entame en ce moment une nouvelle série avec le premier volume qui s'appelle L'Enfant Monstre. Et donc, nous sommes là pour parler des personnages de nos séries favorites sous le titre Vilaine Bête. Et quand j'ai lu ça, donc Vilaine Bête, loup-garou, zombie, vampire, etc., la première réflexion que je me suis fait, c'est est-ce que ce sont des bêtes? Est-ce que ce titre ne trahit pas plus ou moins inconsciemment ce sentiment que nous avons, nous autres humains, d'être l'espèce supérieure, celle qui a une âme? Bon, je parle pour les hommes, hein, les femmes, on leur a donné une âme il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. Et donc, est-ce que ce sont donc des bêtes? Alors là, je ne parle pas des femmes, je parle des autres créatures, naturellement, puisque dans le cas de Jean-Luc Marcastel, lui a choisi des loups-garous. En revanche, nos trois autres auteurs féminins ont des femmes qui sont d'ailleurs, sauf chez Cassandra O'Donnell, des métisses de vampires et d'une autre race, et chez Cassandra, ce sont des sorcières de guerre. Donc, première chose, sont-ce des bêtes?
Qui veut se lancer?
Vas-y,
vas-y, commence.
Allez, voilà.
Je ne crois pas que ce soit des bêtes, mais je pense qu'ils ont des instincts beaucoup plus, basiques. En tout cas, la manière dont moi j'ai traité, ce n'est pas du tout des bêtes, c'est des humains. C'est plus des humains, c'est des vampires qui ont été humains, mais qui ont... Elle est difficile, la question, quand même. J'aurais dû rester à non. Non, ils sont plus libres. Ils n'ont pas on va dire, ils n'ont pas envie de se plier forcément à la morale humaine. Ils ne sont pas des bêtes.
Moi, dans le cas de mon héros, enfin de mes héros, c'est des bêtes dans le sens où il y a toujours la part d'animalité qui est en eux. Voilà. Donc, c'est un peu se pencher sur cette dualité de l'humain qui est tout le temps tiraillée entre ses grandes aspirations et ses démons qu'il doit affronter et dompter pour se révéler humain.
I don't think that the beasts in my books are any more beastly than humans are. I think that their monstrous traits are human traits amplified.
Je ne pense pas que les créatures dans mes livres soient des bêtes plus que les humains ne le sont. C'est-à-dire que leurs traits de monstres sont humanisés. Donc ils ont quand même une part d'humanité en eux.
La même chose pour moi, effectivement, je ne pense pas du tout que mes personnages soient des bêtes au sens propre. Effectivement, il y a une animalité dans certains d'entre eux, obligatoirement, particulièrement chez les métamorphes. Mais en fait, qu'est-ce qu'on appelle des bêtes au juste? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelqu'un qui laisse librement... C'est la question, en fait. Est-ce que c'est quelqu'un qui... Ce sont des animaux qui laissent librement leur instinct en roue libre? Est-ce qu'ils font comme les bêtes? C'est-à-dire, est-ce qu'ils simplement ils essayent de survivre et se nourrir, simplement de se nourrir? J'en sais rien du tout. Pour l'instant, je sais que simplement, certains n'ont pas de notion du bien et du mal, ou de morale, ou de conscience, peut-être la même que celle des humains, mais c'est tout. Donc non, je pense pas. Je pense pas que ce soit des bêtes au sens où on l'entend nous, en tant qu'animaux. Maintenant, la question, je vois pas trop ce qu'on appelle des bêtes.
C'est pour ça que vous êtes là pour y répondre.
Oh, I just wanted to add that I think that's really interesting because the vampires, my main character is half vampire, and she makes the point that she sees humans like we see cows. So it's just a different perspective, but the same kind of same idea, just it's a different morality.
Donc en fait, je voulais intervenir. En fait, le personnage, mon personnage à moi, qui est en fait un sang mêlé et qui est moitié vampire, en fait, elle voit les humains comme les humains voient les vaches. C'est-à-dire que pour elle, les humains, c'est quelque chose dont elle se nourrit. Elle ne peut pas faire autrement. Elle est conditionnée par son état de vampire. Et donc, elle répond juste à un autre code qui correspond à l'état dans lequel elle est. Donc, elle n'est pas spécialement bestiale. Elle est juste liée par les instincts qui sont propres à sa condition.
Idem que pour Jay, c'est-à-dire que les humains, par exemple dans Rebecca, n'ont aucune importance. On peut les sacrifier, ils sont sacrifiables à souhait, ils ne s'en nourrissent pas, mais ils n'existent pas. Pour eux, ce sont des êtres un peu inférieurs, qui n'ont pas vraiment d'intérêt.
Je pense que justement là, vous venez de mettre toutes les deux le point sur aussi une différence qui me semble fondamentale entre les créatures dont vous avez traité. Dans vos deux cas, ce sont des espèces différentes, séparées de la nôtre, alors que dans le cas des garous de Jean-Luc Parcastel ou des vampires de Marika Gellman, ils sont issus de l'humain, ils ont été transformés. Donc est-ce que ça n'entraîne pas justement aussi une différence au niveau du questionnement?
Bon, dans mon histoire, en fait, l'origine des galous, des loups-garous, donc, vient d'une espèce de brèche ouverte dans la terre causée, on ne sait pas, quelque chose qui est tombé du ciel et qui a contaminé la terre. Par contre, le galou, pour moi, dans mon histoire, est un révélateur. C'est-à-dire qu'en fait, cette brèche, ce pouvoir a contaminé certains hommes et leur permet de faire surgir la bête qui est à l'intérieur d'eux, c'est-à-dire cette part prédatrice de la nature humaine. Et en fait, ils vont piocher un petit peu, on va dire, dans leur gène, remonter très 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 haut dans leur gène quelque part, peut-être même au point commun de convergence de l'humain et des autres prédateurs, en remontant pour faire sortir leur part animale, qui va être l'expression un petit peu de toute cette psyché qu'on retient normalement, et qui là va se révéler à travers ce pouvoir. Ce qui fait que les galous, par exemple, contrairement à des loups-garous classiques, ont la faculté de se transformer, de se métamorphoser à volonté. Après, par contre, ce pouvoir va se manifester de différentes manières, comme c'est écrit sous la forme d'un conte. Au début, ils vont être appelés à être gris, comme un loup sauvage. S'ils choisissent une voie, en quelque sorte, entre guillemets, de la vertu, pour se tenir droit, comme des espèces d'artanges avec le pelage blanc, et s'ils commencent à dévorer la chair humaine, ils vont franchir une limite. Ils seront dévorés tout le temps par une faim insatiable, ils vont se tenir à quatre pattes, leur pelage va virer au noir, et ils vont poursuivre tout le temps les humains et être dévorés par une colère, une bestialité qui ne connaît pas de répit. Donc c'est plutôt une expression de la psyché humaine que vraiment un état de nature.
Est-ce que j'ose demander de répéter la question? Parce que j'écoute en fait ce qui se dit de ce côté.
Simplement, je disais que dans le cas de nos vampires, eux sont issus de l'humain, ils sont transformés.
Oui, alors en fait, je pense que j'ai traité ça de cette manière parce qu'il y a, dans tout le monde, il y a une part de, on va dire, de lumière et d'ombre. Et ce que j'ai fait avec Maëve, c'est que sa partie vampire, ça doit être la partie qui est noire, c'est le côté mauvais en elle, c'est ce que ça devrait être, c'est comme ça qu'elle le voit, elle diabolise les vampires beaucoup plus que n'importe qui d'autre en fait. Et la partie mage, c'est celle qui devrait être capable de faire le bien. Et au final, ce qui va se passer, c'est qu'elle va faire plus de bien avec sa partie vampirique et plus de mal avec sa partie magique que l'inverse. Et du coup, je pense que les vampires sont... elle est toujours à contre-courant, mais on va dire généralement, les vampires sont le mal qui remonte, mais pour elle, du coup, ça fera de vous l'inverse.
Jay.
I think it was interesting that you mentioned choice so much, because I think when you're born of a different race, a vampire, a mage, or demon, you know, whatever, it's not, I mean, it's your nature. Vampires don't choose to eat humans. They have to eat them, you know? So I thought that was an interesting difference.
Donc je trouve que c'est très très intéressant justement d'avoir mentionné, dans ton cas particulier, le choix. C'est-à-dire que quand il y a un choix, c'est délibéré. Lorsqu'il s'agit d'un vampire qui est vampire parce que c'est son espèce, là, il n'a pas le choix. Il est conditionné effectivement par ce qu'il est. Et le fait de manger de la chair humaine, par exemple, pour des créatures qui se nourrissent de ça, c'est pas spécialement mal, c'est juste, elles sont comme ça. Mais effectivement, le fait d'avoir parlé du choix, c'est quelque chose d'important.
Pour moi, c'est d'autant plus important que, par rapport au choix, je disais tout à l'heure, entre le blanc et le noir, c'est facile, la dichotomie est assez primaire, mais que pour moi, le chemin de mon héros va être de se rendre compte, finalement, peut-être que c'est pas le choix entre le blanc et le noir, mais peut-être que la véritable nature humaine, c'est d'être entre les deux, de ne pas refuser ou renoncer à cette nature prédatrice, de ne pas vouloir l'occulter ou la détruire totalement, mais de l'accepter, d'accepter sa part d'ombre, et d'en faire une partie intégrante de sa personne, mais de la magnifier. Tu parlais tout à l'heure de faire peut-être du bien avec son côté d'empire, de l'utiliser pour faire le bien, d'en faire une part de sa personne, quelque chose de constructif, mais de ne pas essayer de l'enfermer, parce qu'un jour, à force de l'enfermer, elle finira par faire éclater sa prison et au contraire se révélera encore pire, puisqu'on l'a privée de liberté.
Au demeurant, dans mes personnages, c'est leur nature, effectivement, de la même façon que ce qu'a dit Jay, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ils ne peuvent pas lutter contre ce qu'ils sont, donc ils vont agir en fonction de leurs espèces différentes et respectives. Mais ce n'est pas de la cruauté, c'est simplement une question de nature. On ne peut pas reprocher à l'homme, par exemple, nous on mange de la viande animale, on ne peut pas reprocher à l'homme d'en manger. Bon, comme on ne peut pas reprocher ça à l'homme, il y a effectivement. Mes clans, effectivement, se conduisent d'une manière peut-être peu humaine, mais qui correspond à leur nature véritable.
En même temps, s'il y a des gens qui nous reprochent d'aller nous taper une côte de bœuf au restaurant. Hein. Mais alors, la réflexion que je me faisais en même temps que je vous écoutais tous les quatre, c'est que, évidemment, là, nous avons maintenant la part de civilisation qui est, c'est que on a des équarisseurs, des bouchers pour pouvoir tuer les gibiers à d'autres places, des pecés et tout, et nous on n'a plus qu'à acheter la barquette emballée sous vide. Alors que dans le chat de vos créatures, justement, et peut-être parce que souvent, en particulier les vampires, etc., sont des créatures anciennes qui ont plusieurs centaines d'années d'âge, etc. Est-ce que justement, étant issu d'un monde qui était peut-être moins, pas civilisé, mais moins sophistiqué quelque part que le nôtre, est-ce que justement, c'est pas ça aussi qui leur permet de pouvoir continuer à exprimer leur nature ?
Je ne sais pas si le fait d'inventer la bombe atomique, etc., ce soit une preuve de sophistication. Enfin, je veux dire, fondamentalement. Non, mais voilà, c'est ça. Moi, je ne crois pas que la nature humaine ait changé. Elle a pris d'autres formes, mais on est toujours profondément meurtrier. Donc, moi, le fait que les vampires tuent des êtres humains, ça ne me choque pas plus que ça. Les humains en font autant avec leur propre espèce. Donc, effectivement, non, ce n'est pas une question que moi je me pose par rapport au clan. La notion du bien ou du mal, parce que c'est les valeurs judéo-chrétiennes. Donc, mais là, si vous voulez, moi, je ne trouve pas que les humains vaillent mieux en termes de moralité. Plus sophistiqué, effectivement, la bombe atomique, c'est plus sophistiqué que d'aller planter ses crocs dans les cou de quelqu'un. Mais en dehors de ça, je veux dire, non, moi, ça me c'est ça. Oui, c'est pas ça, ça me choque pas du tout. Oui.
Non, c'est peut-être parce que l'être humain est feignant, finalement. C'est pour ça qu'il invente aussi la chaise longue et la bombe atomique. Ça se demande d'un seul coup. Mais malheureusement, le fond reste le même. De toute façon, depuis l'Iliade, l'Odyssée, jusqu'au dernier récit qu'on a fait, malheureusement, je crois. On n'a pas beaucoup évolué de ce côté-là.
Alors, c'est vrai que je n'avais jamais réfléchi à ça comme ça. Est-ce qu'on trouve ça dégoûtant ou horrible parce que nous, on n'a plus l'habitude de chasser Théorique, dont Maëve, au départ, elle trouve ça dégoûtant, mais elle trouve aussi qu'un steak saignant, c'est dégoûtant, le sang, c'est toute une nouvelle manière de réapprendre à penser. Mais je pense que ce qui la dérange le plus dans mon cas, c'est qu'elle ne peut pas faire la même chose, elle n'a pas de croc. Donc elle est quelque part, elle est finalement obligée d'accepter que bon bah voilà, ils font comme ça, moi je veux pas. Mais c'est vrai que j'avais jamais réfléchi à ça comme ça, et c'est assez intéressant.
Peut-être que la fascination aussi pour les vampires ou les libéraux, c'est justement dans notre société qui est hyper aseptisée, comme tu l'as souligné tout à l'heure, ce retour à la prélation, au sang, au rapport à la chair finalement, au liquide. Tu vois, qui, finalement des fois d'habitude nous dégoûte un peu, il y a une fascination aussi, je pense, qui exerce
Yeah, I would agree with that because I think the more we adopt this kind of veneer of civility, like there's this like feeling that it's a very thin line between civilization and like just this primitive instinct that, you know, because you see people in the news and you like just lose it, you know, like it's gone, like all the rules are gone, and or when there's, I'm sorry, do you need to?
Oui, enfin, je trouve que c'est effectivement extrêmement intéressant. Quand on y réfléchit, finalement, cette espèce de vernis de civilisation, ça reste un vernis et une ligne très fine, puisqu'on voit tous les jours dans les faits divers des choses absolument horribles avec des gens qui perdent le sens commun et qui sont capables de faire les pires choses. Et finalement, ces instincts primitifs, ils sont là, pas loin. Ils sont à l'intérieur, mais ils sont pas loin du tout.
And you see it when there's a disaster. You know, the rules fall away very quickly, and suddenly the instincts come out, and we are capable of extreme, like horrible things. People who would otherwise say, "Oh no, I'd never do that." Well, when their family is in danger, or when they are in danger, that comes out very quickly.
Et en fait, on voit quand il y a une catastrophe naturelle, là, les règles, elles s'effondrent très très vite, et là, on retombe à des comportements. Où en temps normal, on dirait « Non, mais moi, je ne serais absolument pas capable de faire ça, je ne pourrais pas. » Et lorsqu'on est en danger soi-même, lorsque sa famille est en danger, on est capable des pires extrémités pour survivre.
C'est un peu... tout à l'heure, on parlait de catastrophe. Ce fait de vouloir voir... Parce qu'on ne veut pas voir d'habitude. C'est un peu, je dirais, comme quand on passe sur la route, quand il y a un accident sur le bord de la route, et quelque part, à un moment donné, on se retient de le faire. Mais on a quand même ce regard, on se retient de ce regard coupable vers ce qu'on va surprendre, parce qu'il y a quelque chose, ce spectacle qu'on ne peut pas voir, et on doit se retenir de regarder. C'est un petit peu ça, quelque part, cette attirance pour la mort, pour le sang.
Oui, on en revient à cette société aseptisée, quelque part, dans laquelle nous vivons. Et donc, dès qu'il y a une sorte de transgression quelque part, on est immédiatement fasciné. Et à travers cette littérature qui nous est venue aujourd'hui, il y a aussi une transgression. Parce que, alors pour essayer de rester peut-être un petit peu quelque part dans le thème général, il y a aussi toujours une histoire d'amour. Une histoire d'amour entre l'héroïne ou le héros et une créature, et c'est toujours un amour interdit qui n'en est quelque part que meilleur, même si on a du mal à l'accepter.
Pour moi, il n'est pas interdit, c'est plutôt, on va dire, dans le sens où elle n'arrive pas à accepter ce qu'elle est, et vu qu'elle n'arrive à accepter aucune de ses deux parties, elle ne peut pas s'accepter elle-même, elle ne peut pas, surtout qu'elle n'a pas envie. Je pense qu'il y a une fascination justement avec le fait d'avoir une relation avec des vampires, donc d'autres, plein d'exemples où vampires ou autres créatures, c'est que c'est, bah, comme hier il disait, c'est ce côté Roméo et Juliette, ce côté tragique, cet attrait de, bah, comme pour le morbide, cet attrait de l'interdit quelque part qui fascine et qui retient. Je pense que c'est ça en fait le pour. Pourquoi est-ce que ça fonctionne aussi bien les...
Oui, parce que Maëve, elle est quand même très attirée quelque part par le cas, même si elle refuse au début.
Oui, mais je pense c'est pas parce que c'est un vampire, à mon avis. C'est parce qu'il a un espèce de... Elle a rencontré en fait, tellement d'hommes, elle a un côté tellement blasé, et lui fait réagir quelque chose chez elle. Il la canalise d'une certaine manière. Il aurait pu être humain, je pense. Alors, elle a trouvé une autre raison de se plaindre. Mais c'est parce qu'il arrive à la troubler d'une manière que personne ne la trouble.
Les hommes dans la salle sont priés de s'abstenir de tout commentaire machiste.
Non, mais effectivement, dans les histoires d'amour, c'est ce que disait effectivement Marika, c'est qu'on c'est toujours les Roméo et Juliette, mais c'est les tragédies grecques. Enfin, je veux dire, et pour le coup, c'est un ressort qu'on utilise systématiquement. Si les choses étaient si faciles, elles seraient beaucoup moins intéressantes. Pour tout le monde, Maëve, par exemple, se bat contre elle-même. Moi, elle se bat contre sa propre nature aussi, d'une certaine façon, et contre son incapacité fondamentalement à s'attacher, qui est due à sa nature même. Donc, effectivement, on a des ressorts, et en plus, c'est des histoires d'amour interdites, puisque ce sont des clans à la base opposés, qui sont la guerre depuis des centaines d'années. Donc, mais ça, c'est voilà, Roméo et Juliette, on le remet à toutes les sauces, et y compris à la sauce vampirique, il faut être très clair.
Et en plus, Rebecca essaye aussi de canaliser un petit peu la nature de sa fille qui est en train de se développer et dont elle ne sait pas trop où ça va aller.
Non, ça l'inquiète beaucoup d'ailleurs, parce que chez Louis Caris, effectivement, on n'aime pas et c'est contre nature. Et on a très peu d'émotions, pratiquement aucune. Et chez sa fille, c'est tout le contraire. Donc il y a une flopée, voilà. C'est la montée hormonale du début d'adolescence qui est très très fatigante pour les mamans et c'est plutôt inquiétante. Oui. Surtout la vitesse à laquelle elle grandit, puisqu'elle grandit évidemment deux fois plus vite que la norme. Donc, elle n'a pas le temps de s'adapter. Déjà que ce n'est pas évident pour un des humains.
Oui, quelque part, l'histoire des gens heureux, de toute façon, ça n'intéresse personne. C'est comme les essais, c'est un peu comme les époques où il ne se passe rien, où il n'y a pas de conflit, finalement, personne n'écrit dessus. Donc, moi, pour les histoires d'amour, c'est vrai que maman. Alors, moi, ce n'est pas un vampire pour le coup, parce que mon héros, c'est mon héros qui, lui, est un galou. Donc, du coup, si ça pose un certain nombre de problèmes, il y a une scène, on ne peut pas faire. Je ne veux pas avancer parce que c'est dans le quatrième, mais il y a une scène assez amusante où, lui, comme je dis, c'est sa phare animale qui se réveille. Et où, à un moment donné, il doit se métamorphoser pour aller combattre quelques adversaires. Et donc, comme il ne veut pas que les autres le voient quand il se métamorphose, il va s'isoler dans une pièce tout seul, il n'arrive pas à enlever ses vêtements parce qu'il est pressé. Et puis, à un moment donné, il se rend compte que l'héroïne est juste devant lui, il dit « Attends, je vais t'aider ». Et il dit « Tu n'as pas peur ?» Il dit « Non, je n'ai pas peur de toi. » Donc, en fait, bon, là, il se révèle, là, tel que le loup. Voilà, donc, en fait, comme c'est sous forme du conte, pareil, on parle tout le temps de cet attrait, de cette là, mais sous le déguisement du conte. Donc, ça doit être travesti un petit peu de ce qu'il
I think the reason we love forbidden love affairs is the same reason that we stop and gawk at the accident on the side of the road. We love things that are kind of shocking and forbidden. It's, I don't know what it is about. It's something perverse in our nature, I guess.
Donc, oui, effectivement, ces histoires d'amour comme ça, un peu interdites, ben, en fait, c'est un peu le même ressort en nous que quand on est au bord de la route et qu'on regarde l'accident en n'osant pas trop le regarder. Quelque part, on aime les choses qui nous choquent. Alors, est-ce que c'est lié à notre nature? Est-ce que c'est un instinct? Mais le fait de voir ces trucs un peu contre nature, ça nous attire sans qu'on sache trop pourquoi.
In urban fantasy, that it's a theme that's explored because it's a metaphor for things that happen in human society. Forbidden, interracial love and same sex love and things. I mean, these are issues that we grapple with in society. So often, I think these forbidden stories are kind of a metaphor in talking about those things without. Directly talking about them.
Et en fait, ces histoires d'amour comme ça, un peu différentes, que l'on trouve beaucoup, beaucoup dans la fantasy urbaine ou la bitlit, finalement, c'est une métaphore pour décrire des choses qui se passent dans les sociétés humaines, avec, par exemple, tous les tabous qu'on peut avoir sur des couples mixtes, sur les mélanges raciaux, sur des pratiques sexuelles qui seraient un peu différentes de l'hétérosexualité. Et donc, finalement, c'est toute une métaphore pour mettre en scène ces choses-là, en parler et les explorer à travers ce contexte décalé des monstres et des espèces différentes.
Je veux dire, pour cette histoire, quand on parlait tout à l'heure de la prédation, de cet attrait un petit peu de cet accident ou de la mort, je crois que c'est Stéphane King qui disait, en fait, c'est soulever le voile quelque part et regarder ce qu'il y a dessous. Il disait, quand on soulève, on se rend compte que sous le voile, c'est notre propre mort. On essaye de regarder et que finalement, on essaye d'apprivoiser. Nous, en jetant un petit coup d'œil comme ça, au bord de la route, voilà, ce voile qu'on soulève, voilà, on joue à se faire peur et on joue avec notre propre mort.
Alors, je ne résiste quand même pas à rebondir là sur ce que vient de dire Jay Wells, parce qu'on sort peut-être, on sort même beaucoup du thème de la table ronde, mais pensant à ce qu'elle vient de dire, est-ce qu'elle pense que donc l'urban fantasy ou la pitié, comme nous disons ici, en fait est une littérature politiquement correcte?
I don't know that we use the term politically correct the same way. In America, it is being very careful about not offending people. Is that the same here? Is it
yes.
the same?
Yes.
Okay. Yes. Yes. It's the same.
I guess in a way, because if you're talking about these things through metaphor, then it's an indirect way of talking about controversial things. So perhaps in that regard, it is a little politically correct, but. I think to even talk about those things isn't politically correct. I don't know.
Oui, en fait, j'ai un petit peu de mal à savoir. C'est vrai que d'un côté, c'est politiquement correct que d'utiliser des métaphores pour mettre le doigt sur des problèmes qui soulèvent des controverses sans finalement donner les vrais termes et en faisant ça sous couvert de vampires, de loups-garous, etc., etc. Mais en même temps, le fait de soulever ces questions et de les mettre au grand jour en utilisant des métaphores où les gens voient très bien de quoi il s'agit finalement, ils savent réfléchir, les lecteurs, ben, c'est finalement pas politiquement correct puisqu'on en parle.
Parce que c'est un jeu aussi, oui, c'est un jeu de trompe-l'œil avec les lecteurs où chacun sait très bien où il va et ce qu'il fait. Il y a un monde comme ça, voilà, on sait à quelle référence on sait à quoi on fait allusion, eux aussi le savent et on joue à ça, à se cacher derrière le masque. Cet échange qui est assez amusant d'ailleurs, de tourner tout le temps autour des choses sans jamais y aller. Franchement, c'est un exercice assez amusant.
C'est une question que je ne me suis pas du tout posée. Est-ce que c'est politiquement correct? Bon, déjà, mon héroïne, elle n'était pas du tout politiquement correcte. Elle l'est beaucoup moins, par exemple, que l'héroïne de Jay. Elle est sociopathe, déjà, à la base. Donc, effectivement, maintenant, est-ce que l'urban fantasy, d'une manière globale, est politiquement correct? C'est une question que je ne me pose pas. J'avoue que je ne me suis pas interrogée sur ça. Je me dis simplement que l'urban fantasy, c'est pour moi des romans de gare. C'est une littérature agréable, du merveilleux, qui se lit facilement. C'est un genre qui a été longtemps méprisé, pour le coup, et qui pourtant séduit de plus en plus de lecteurs chaque jour. Donc, non, je ne me suis pas posé la question dans ce sens-là. Par contre, on peut avoir des héros, effectivement, politiquement incorrect, mais c'est vrai que les Américaines parfois se limitent un petit peu. On les voudrait encore plus trash dans leurs personnages.
En fait, pour réfléchir justement à ce concept de politiquement correct, qu'est-ce qu'il est et qu'est-ce qu'il n'est pas, en fait, actuellement, j'ai pas essayé de mettre du politiquement incorrect, mais mon personnage n'est pas politiquement correct, on va dire. Elle est d'une. Elle ne fait pas en fait attention à ce que pensent les autres, elle les cache. Je pense qu'elle est d'une certaine manière assez comme Rebecca, elle n'a pas le regard des autres. Elle est naturelle pour elle-même et vu qu'on est dans sa tête, on lit beaucoup de choses. Des gens la trouvent vulgaire, elle a des pensées des fois qui sont absolument atroces. Et j'avais envie justement de montrer un personnage comme on est peut-être plus au fond de nous Quand on est en public, on sourit, on regarde les gens, mais des fois on pense des choses atroces. Enfin, pas forcément atroces, mais qu'on ne va jamais dire à haute voix. Et du coup, là, c'est vrai que...
Malgré tout, elle souffre, par exemple, du regard d'Eliott quand Eliott est critique à son égard.
Oui, bon, d'accord. Elle essaie de se persuader qu'elle n'a rien à faire du regard des autres.
Voilà.
J'en ai, moi j'ai alors, c'est pas tout à fait que je suis le seul de l'Assemblée, tu vois. Mais par contre, je trouve quelque chose d'assez merveilleux quand j'entends, que je vous entends parler, c'est que j'ai quand même l'impression, moi qui suis un peu néophyte dans l'urban fantasy, etc., c'est quand même une littérature, je trouve ça génial, qui redonne le pouvoir aux femmes quand même, qui deviennent créatrices, qui deviennent agissantes. Et
nous allons en parler à nouveau beaucoup cet après-midi dans une table ronde.
I need to respond to the thing about American writers. I actually think that no, it's not offensive or anything. It's just my character kills her best friend in the first scene of this book. Do you want to?
Oui, donc moi je voulais réagir un petit peu sur ce qui a été dit tout à l'heure sur les auteurs américains. Je n'ai pas du tout été offensée ni rien, mais c'est juste que...
C'est pas Jay dont je parlais.
Et donc, par exemple, moi personnellement, mon personnage principal tue son meilleur ami dans la première scène du livre.
And I think, I know you weren't speaking to me specifically, but I see a lot of things that authors writing this genre can get away with that you couldn't get away in like a romance, for example. You know, people don't want your, you know, romantic heroine like murdering somebody. But in urban fantasy, women can be extremely violent, and it's entertaining because it's not like a normal woman like us murdering someone. It's, you know, she's a vampire. Mm.
Et en fait, effectivement, dans d'autres genres que la fantasy urbaine ou la bitlit, il y a effectivement des codes qu'on ne peut pas transgresser. Par exemple, dans un roman d'amour ou dans un roman de littérature blanche, de littérature générale, l'auteur n'a pas toute liberté et il y a beaucoup de choses qu'il ne peut pas faire. Dans la fantasy urbaine, c'est effectivement un des genres où on peut se permettre énormément de choses et où ça passera, alors que ça ne passerait pas ailleurs. Parce que justement, le personnage, ah oui, mais c'est pas un vrai humain, c'est un vampire, c'est un mage. Et là, on peut se lâcher beaucoup plus à travers ce genre.
And I think that the popularity of this genre shows that at least the American audience is craving this kind of, we call it edgy literature, because you don't see a lot of depictions of women being violent and being powerful outside of, you know, paranormal stories, fantasy stories, really.
Et donc, finalement, la fantasy urbaine, ça a beaucoup de succès aux États-Unis parce que peut-être justement que les lecteurs attendent ce genre de livre où on peut aller plus loin, pousser plus les choses, où on peut un peu déborder des limites. Et c'est le seul genre dans lequel, par exemple, on peut avoir des femmes violentes, des femmes qui assassinent, des femmes dominatrices. Et vraiment, le lectorat, on sent qu'il a envie de pouvoir changer les codes, et c'est le seul courant de littérature qui le permette à l'heure actuelle.
Ça, on est d'accord. En paranormal romance, c'est pratiquement impossible. Mais quand on voit, par exemple, les Kate Daniels ou de Ilona Andrews, vos personnages, à vous, sont différents. Si on regarde les personnages de Lilith Synchro dans Danny Valentine, etc., ils vont très, très, très loin, ces personnages. Le vôtre, Sabina, effectivement, aussi. Mais dans d'autres genres, par exemple, chez Patricia Briggs, etc., les héroïnes se posent beaucoup de questions. Quand elles tuent, il y a beaucoup de remords, beaucoup d'angoisse. Même avec sa nature de coyote, par exemple. Ou chez Kate Daniels, il a fallu attendre des auteurs un peu plus récents que je pense, effectivement, pour avoir droit à des héroïnes de cet acabit-là, c'est-à-dire des héroïnes qui ne se posent pas de questions, qui acceptent. Et il nous a fallu un petit peu de temps, mais maintenant, on les accueille, on les dévore, on adore. Pour être très clair.
Yeah, and it is interesting because you see a lot of, and I know we've completely gone off topic. you see a lot of, it's interesting in America because we are much more comfortable with violence than we are with sex. And so you see an author like Laurel K. Hamilton, who writes Anita Blake, who's this very strong character, and no one complains that she's murdering people, but God forbid she has sex with more than one man in a book.
Et donc c'est très très amusant aux États-Unis, c'est que on est beaucoup plus à l'aise avec la violence qu'avec le sexe. Et donc par exemple, quand on voit dans des bouquins des personnages de Laurel K. Hamilton, donc très puissante, femme qui peut éventuellement assassiner des gens et tout ça, ça effraie personne, mais alors, attention, gros scandale si elle fait l'amour avec plus d'un homme dans le même livre, parce que là, c'est pas autorisé.
Ben, Laurel K. Hamilton, pourtant, Anita Blake fait l'amour avec des tas d'hommes, c'est formidable. Et pour le coup, ça, c'est, je trouve ça très libérateur. Et là, je trouve qu'elle a osé, elle a osé ce que personne n'avait osé. Donc, au contraire, je trouve que là, pour le coup, c'est incroyable ce qu'elle a fait. Et elle l'a fait magnifiquement bien, en plus. Donc, effectivement, mais sur la, moi aussi, je pense que je ne suis pas la seule, et je pense que c'est peut-être le cas de Marika, je ne sais pas. Mais on est beaucoup plus à l'aise avec la violence qu'avec le sexe. Je ne sais pas si toi, c'est plus facile pour toi la violence pure ou d'écrire une scène violente ou d'écrire une scène de sexe, parce que pour moi c'est une vraie galère. La scène de sexe.
Alors ça dépend si c'est une scène gratuite de violence ou de sexe, j'aurais de la peine. Mais si non, j'ai pas de peine en fait si ça sert l'histoire, que ce soit, parce que quelque part la violence et le sexe c'est très lié, c'est un côté très on en discutera après. Mais c'est un côté très animal de notre personne, de notre aspect humain. Et du coup, en fait, non, les scènes de sexe gratuites, si jamais je dois vraiment en mettre une, je pense que je vais vraiment galérer. Mais pareil pour la violence, il faut que ça ait quelque chose à faire dans l'histoire.
Oui, non, mais ça, les scènes se justifient, on
est d'accord. Mais sinon, non, j'ai pas.
Non, ce que les scènes soient justifiées évidemment, mais parfois à des auteurs, je sais pas pour Jay si elle est plus confortable, si elle est plus confortable avec des scènes de sexe ou avec des scènes de violence, mais
It's the same actually. It's just different choreography and more or less clothes, really.
Donc pour moi c'est plus ou moins pareil. En fait c'est juste une question de chorégraphie et de proximité.
And really it comes back to with either, like she said, the emotion of the scene. You know, I think when people are intimidated to write violence or sex, they're not focusing on what's going on means to the character emotionally, and they're much easier if you know why it's happening and the effect it's having on the character's growth.
C'est-à-dire qu'en fait, quand on a du mal avec une scène de violence ou une scène de sexe, c'est qu'en réalité, en tant qu'auteur, on n'a pas assez creusé son personnage, on n'est pas assez dans les émotions, parce que lorsqu'on est vraiment à l'intérieur du personnage et qu'on vit la scène à travers lui, les gestes viennent naturellement et on les décrit tout à fait naturellement parce qu'on est dedans.
C'est vrai, mais quelquefois, effectivement, je sais pas, c'était pratiquement le premier tome, hein, parce que c'est pour ça que j'ai écrit. Oh, maintenant, je suis très à l'aise, mais j'ai mis un petit peu de temps. Mais il y avait une espèce de pudeur, même quand vous travaillez votre personnage et même quand vous faites la différence, une espèce de pudeur au début qui est difficile à combattre quand on n'en a jamais écrit et qu'on débute et qu'on se dit, mais. C'est toujours un peu. Et vous voyez, c'est. Ça, il n'y a pas que les Américaines qui. Il y a les Françaises aussi.
Pour le galou, la question se pose pas plus que pour Advent, mais par exemple, dans Frankenstein, la série que j'avais écrite, il y a une scène d'amour en fait, qui est non déguisée. Et je pense que ce soit les scènes de sexe, pour moi, ou une scène de bataille, ou une scène d'action, peu importe, j'y apporte le même soin, mais il y a un éclairage particulier, c'est-à-dire que c'est quand même une scène de sexe ou d'amour, c'est une. C'est la conclusion d'un rapport entre personnages, donc il doit être traité comme tel, et s'il est traité comme tel, et si on le sent, il vient tout à fait naturellement. Pareil, si c'est par contre une scène qui doit être violente, elle va être traitée d'une manière différente, mais ça pose pas de problème. Par contre, ce qui est amusant, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est cette hypocrisie un petit peu dans notre société, où on disait on est très mal à l'aise la plupart du temps avec le sexe. Ça, je le renvoie très souvent, ça m'a toujours amusé au cinéma, où par exemple, il y a des films qui sont interdits juste au moins de 12 ans, où on trucide des bonhommes par paquets de wagons entiers avec du sang partout. Par contre, s'il y a le moindre sein qui dépasse, tac, tout de suite, c'est moins de 16 ans. Alors qu'on pouvait trucider des dizaines de personnes, enfin, c'était terrible. Donc il y a une espèce d'hypocrisie au niveau de la violence et du sexe dans notre société qui est quand même assez importante.
Right. Alors, c'est vrai qu'on a un petit peu digressé par rapport au thème original, mais ça va me permettre en même temps d'essayer de revenir un petit peu dessus parce que je vois l'heure qui tourne aussi. Donc, vous avez tous dit, vous étiez plus ou moins d'accord que quelque part, violence et sexe, c'est un peu, c'est à peu près pareil. Les ressorts profonds de la nature humaine sont les mêmes dans les deux cas. Et alors, justement, pour en revenir au thème initial qui était quand même vilaine bête, on s'aperçoit finalement que ces vilaines bêtes sont des objets de désir, à la fois à travers la violence et le sexe. Donc, est-ce que c'est ça qui fait tout leur attrait?
Est-ce qu'ils sont un peu comme l'accident de voiture sur le bas-côté?
Par exemple.
Je pense justement qu'ils ont cet attrait parce qu'ils n'ont pas les interdits que nous, en tant qu'humains, d'être humains, on va dire, on a. Et je pense que c'est des choses qui fascinent justement et qui intriguent et qui a l'effet d'un néon sur un moustique.
Moi, il y a quelque chose d'amusant, tu sais, qui me vient, c'est ça date de l'adolescence, tu sais. On se dit tout le temps quand on est adolescent, c'est marrant, pourquoi les filles elles préfèrent toujours le mauvais garçon, c'est celui qui a l'air un peu dangereux, un peu ténébreux, tu vois, quand on regarde un petit peu dans Twilight, etc., tout ça, tu as des personnages. Pourquoi, voilà, c'est l'attrait du danger quelque part. C'est pareil, c'est un athos, tu vois, c'est pareil, tout est lié, quoi. Les garçons sages,
non, mais c'est celui qu'on épouse.
Oui, c'est pour ça que Naël ne comprend absolument pas pourquoi Elliot est avec Tara.
Je ne sais pas exactement pourquoi elle ne comprend pas. Moi, je comprends pourquoi il était avec Tara. Elle ne s'est pas encore fait de raison.
Ok. I missed what she just said.
Oui, j'ai pas entendu, du coup, je traduis.
Non, sur l'objet de désir, là-dessus je suis tout à fait d'accord avec Jean-Luc, c'est-à-dire qu'on aime bien les mauvais garçons. Mais c'est pareil, c'est ce dont on parlait la dernière fois, sur le fait d'être attiré par par quelqu'un de fort, de puissant, et dangereux. Et on se met, on parlait des filles qui sont toujours en crinoline. Il faut être très clair. On va chercher le mal le plus puissant, le plus dangereux, donc ça peut être un vampire, un loup-garou, etc. Et on va se mettre sous son aile. Bon, aujourd'hui, heureusement, nos héroïnes arrivent à peu près à être de même puissance. Mais à la base, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va rechercher le personnage qui peut vous apporter l'immortalité, le personnage qui peut vous protéger, le personnage qui a cette bestialité en lui, mais qui est capable de défendre sa famille, son... voilà. Et je pense que ça date des grottes, la chasse. Mais pour le coup, faut être très clair. Voilà, et on va prendre le mauvais garçon parce que c'est vachement plus sexy, faut parler.
Celui qui avait la plus grosse massue dans la caverne.
C'est exactement ça, la grosse, très grosse massue.
Je pouvais pas résister.
I think it goes to the issue of control. I think everything goes back to the issue of control and dominance and submission. And I think that the bad guys or girls. Have this element of we can lose control a little bit, like big because they're strong and they're powerful. We don't have to be in control as much, and I think that the idea of letting go is scary, but also very exciting.
Si on y réfléchit, le problème de fond, c'est le problème du contrôle, hein, et de domination, soumission, et finalement, effectivement, être auprès d'une créature aussi puissante qui peut faire tant de choses. Eh bien, ça peut nous permettre à nous, en étant à côté, de perdre un peu le contrôle, de se laisser aller sans que ce soit vraiment dangereux. Alors, en même temps, c'est terriblement effrayant, mais ça a un côté libérateur qui fait qu'on peut se laisser aller auprès d'une créature telle que celle-là. Et c'est pour ça qu'on est attiré par cette créature.
Et puis, quelquefois aussi, c'est simplement parce que la créature est un peu plus puissante que vous.
C'est ce que j'allais dire chez toi.
C'est-à-dire que, quand on arrive où effectivement, l'héroïne, mais pareil chez Jay, hein, Sabina, elle est puissante. Hein, donc, il faut un homme qui soit évidemment capable d'être plus puissant qu'elle, sinon c'est pas intéressant. Et on cherche du moins l'équivalent. Et si on n'a pas envie de protéger le mec avec qui on vit, il faut être très clair, c'est pas très agréable. À moins d'aimer les castrés particulièrement, mais sinon, on aimerait bien avoir un peu d'admiration de petite lueur qui s'allume. Bon, voilà.
Oui, il y a ce côté où on cherche, nos héroïnes, bien sûr, puisque ce n'est pas nous, cherche un mâle alpha, mais quand même pour le défier et pour voir justement, c'est comme je disais, c'est une question de soumission et de dominance, de ce côté de défi où il y aura toujours une part à essayer de se comparer à l'autre et de l'écraser d'une certaine manière. Mais à la fin, elles vont quand même vouloir qu'il soit dominant lui, même si elles, ces fameuses femmes fortes maintenant qui ont pris le pouvoir et tout. Il y a quand même, je pense, je ne sais pas si c'est génétique ou psychologique, ce besoin d'avoir un homme plus fort, même si on lui montre qu'on n'a pas envie qu'il le soit. C'est le prince charmant, mais sur un cheval noir.
So, I would say Sabina is very powerful, but the partner that is kind of her love interest throughout the series actually is not more physically powerful, but he challenges her in a way so that, because she always wants to dominate, and he challenges her on kind of like a mental level. So it's, she has to learn it's not about who's in control, but finding a balance to be partners instead of one dominating the other.
Sabina, effectivement, est un personnage très très puissant. Et si on regarde en fait le personnage qui va être un petit peu celui qui est un peu son partenaire amoureux au fil des romans, physiquement, il n'est pas plus puissant qu'elle. Au contraire, il est plus faible. Mais par contre, là où il peut vraiment aller sur son terrain à elle et la confronter, c'est sur le terrain mental, parce que là, au plan mental, il est très puissant. Et finalement, il lui montre que c'est pas du tout le problème de ce rapport de couple qui peut s'installer, n'est pas une question de domination-soumission, mais plutôt finalement d'un espèce d'équilibre pour que les choses deviennent harmonieuses entre les deux. Et donc, c'est sur ce terrain-là qu'il va la chercher, sur le terrain mental, pas sur le terrain de la puissance physique.
Mais souvent, quand on parlait de puissance, effectivement, il y avait ça aussi, c'est-à-dire il y a ce côté-là où il y a une domination qui se fait d'une autre manière. Parce qu'en fait, fondamentalement, nos héroïnes n'affrontent pas leur mal. Enfin, je veux dire, donc il faut être très clair. Mais non, c'est vrai.
Pas de conflit.
Ah non, c'est tout. Non, moi, dans le mien, non, parce que ça finirait forcément par la mort de quelqu'un. Mais par exemple, on va pas les confronter, on va pas se confronter à eux physiquement. On va se confronter à eux d'une autre manière. Et là, pour le coup, effectivement, l'homme est dominant. On va rechercher une espèce de paix, de sécurité, d'apaisement chez lui. Et le réconfort en général.
Yeah,
and comfort.
Yeah.
Mm-hmm. Jay, do you have anything to add?
I'm sorry we didn't talk more about villains.
Je suis désolée, on n'a pas assez parlé des méchants.
Because it's a really fun topic, but I think the discussion has been fantastic either way.
Parce que bon, c'est vrai que c'est très très drôle de discuter des méchants, mais en tout cas, cette table ronde a été quand même très très intéressante.
Alors, j'ajouterais quand même que là, il y avait peut-être, j'ai peut-être pas été assez clair au début dans l'explication. Le titre, c'était Vilaine Bête. Et là, pas au sens de vilaine en américain, c'est-à-dire de méchant.
Yeah, you know, the title of the panel, it was nasty creature, but not nasty, and as you would see in America, it was being more ugly creatures.
It was more like nasty creatures rather than villains.
Oh, yeah, I see. Not really villains,
you know? L'heure a tourné très très vite en compagnie de nos amis, donc on a peut-être le temps de prendre une ou deux questions si vous en avez. Le seul point à ne pas aborder étant quelles sont les sources d'inspiration de Marika Galman. Voilà.
Désolé,
mais nous
Julie.
Prenons tout le reste.
Pourquoi les sources d'inspiration?
Elle voulait absolument voilà. Voilà, c'est ça, exactement, c'est ce qu'elle voulait faire.
T'as qu'à dire que t'as regardé des films à la télé.
Alors, sinon, des questions? Ne me dites pas que nous avons été tous tellement pointus sur tout que ça a répondu à toutes vos attentes sans aucune exception. Parce que là, sinon, on va plus pouvoir, on va avoir tellement la grosse tête qu'on pourra plus passer la porte en ressortant. Eh bien, alors il nous reste qu'à remercier nos quatre auteurs qui ont été absolument parfaits et ont tout couvert.